Chapitre 52, où l'on commence à voir un peu plus clair dans la vie de Salvatore. Salvatore jeta un calme regard sur ces deux, ou plutôt sur ces trois hommes. « Eh bien, demanda-t-il, que se passe-t-il donc ici ?»«
Rien, dit Jean Taureau, seulement, avec votre permission, je vais noyer monsieur. »«
Oui, nous allons le noyer, dit Toussaint. »«
Et pourquoi cette extrémité ?» demanda rêveusement Salvatore. « Parce qu'il a essayé d'abord de nous griser, et puis de nous acheter. Après, enfin de nous intimider. »«
Intimider, Jean Taureau, Toussaint Louverture, je ne dis pas, mais Jean Taureau. »«
Aussi, voyez, dit le charpentier, allons, laissez-nous passer, et dans une demi-heure, son affaire sera faite. »«
Et pour t'intimider, mon brave, qu'a-t-il donc dit ?»«
Qu'il vous dénoncerait, monsieur Salvatore, qu'il vous ferait arrêter, qu'il vous conduirait sur l'échafaud. Alors je lui ai dit, bon, en attendant, je vais vous conduire à la Seine, moi. S'il vous plaît, rangez-vous, monsieur Salvatore. »
Délie cet homme, Jean. »
Comment que je le délie ?
Oui.
Mais vous n'avez donc pas entendu ce que je vous ai dit ?
Si fait.
Je vous ai dit qu'il voulait vous dénoncer, vous faire arrêter, vous faire guillotiner.
Et moi je t'ai répondu, délie cet homme, Jean, et j'ajoute, laisse-moi seul avec lui.
Monsieur Salvatore, fit Jean Taureau d'un air suppliant.
Sois tranquille, mon ami, insista le jeune homme. Monsieur le comte Laurédan de Valgeneuse ne peut rien contre moi, tandis que moi, au contraire,
vous, au contraire,
moi je puis tout contre lui. Donc une dernière fois, délie cet homme et laisse-nous tranquillement causer tous les deux.
« Allons, dit Jean Taureau, puisque vous le voulez absolument. » Et son regard interrogea encore une fois Salvatore.
« Absolument, répéta le jeune homme.
« Alors, j'obéis, dit Jean Taureau, vaincu. »
Et ayant délié les mains du comte, lui ayant ôté son bâillon, il sortit avec son ami Toussaint, prévenant Salvatore, ou plutôt monsieur de Valgeneuse, qu'il demeurait à la porte afin d'accourir au premier appel. Salvatore les suivit des yeux, lui et Toussaint, et dès que la porte fut fermée, «
Donnez-vous donc la peine de vous asseoir, mon cousin, » dit-il au comte de Valgeneuse, « car nous en avons, je le crains bien, beaucoup trop à nous dire pour rester debout. »
Laurédan jeta un regard rapide sur Salvatore.
« Ah !» reprit celui-ci en levant avec la main ses beaux cheveux noirs si fins et si soyeux, et en découvrant son front, aussi calme et aussi pur que s'il se trouvait en face de son meilleur ami. « Regardez-moi bien, Laurédan, c'est moi-même. »«
D'où diable sortez-vous, monsieur Conrad ?» dit le comte, plus à l'aise devant un homme du même rang que lui qu'il ne l'était en face des deux prolétaires avec lesquels il venait de lutter si désavantageusement.
« D'honneur, on vous croyait mort. »«
Eh bien, vous le voyez, dit Salvatore, je ne l'étais pas.
Eh mon Dieu, l'histoire est pleine d'événements de ce genre. Depuis Oreste, qui fait annoncer sa mort par Pylade à Égiste et à Clytemnestre, jusqu'au duc de Normandie, qui réclame à sa majesté Charles X le trône de son père Louis XVI. »
Mais encore, ni Oreste ni le duc de Normandie n'ont-ils fait payer leur enterrement à ceux dont ils viennent tirer vengeance ou réclamer l'héritage, répondit M. de Valgeneuse, maintenant la conversation sur le même ton.
« Oh mon Dieu, mon cher cousin, pour un pauvre billet de 500 francs que mon enterrement vous a coûté, n'allez-vous pas me le reprocher? Mais songez donc que jamais argent n'a été si bien placé. » Voilà quelque chose comme 6 ans qu'il vous rapporte, bon an mal an, 200 000 livres de rente.
Soyez tranquille, je vous le rendrai quand nous réglerons nos comptes.
Nos comptes, reprit dédaigneusement Laurédan, vous avez donc des comptes à régler?
Parbleu.
Ce ne sont pas ceux de la succession du feu marquis de Valgeneuse, mon oncle.
Vous pourriez bien, mon cher monsieur Laurédan, ajouter,
et votre père.
« Au fait, entre nous, c'est sans conséquence. J'ajouterai donc, si la chose vous est agréable, et votre père. »«
Oui, dit Salvatore, elle m'est, on ne peut plus agréable. »«
Maintenant, monsieur Conrad ou monsieur Salvatore, comme vous voudrez, car vous avez plusieurs noms, serait-ce trop indiscret de vous demander comment il se fait que vous viviez quand tout le monde vous croit mort ?»«
Oh, mon Dieu, non, j'allais même vous offrir de vous raconter cette histoire, pour peu qu'elle vous intéressât. »
« Elle m'intéresse, mais même beaucoup. Racontez, monsieur, racontez. »
Salvatore s'inclina en signe d'assentiment.
Vous vous rappelez, mon cher cousin, dit-il, de quelle inattendue et fatale manière mourut monsieur le marquis de Valgeneuse, votre oncle et mon père.
Parfaitement.
Vous vous rappelez qu'il n'avait jamais voulu me reconnaître, non point qu'il me jugeât indigne de son nom, mais parce que, au contraire, en me reconnaissant, il ne pouvait me laisser qu'un cinquième de sa fortune.
Vous devez être plus que moi au courant des dispositions du code à l'endroit des bâtards. Étant fils légitime, je n'ai jamais eu l'occasion de m'en occuper.
Et mon Dieu, monsieur, ce n'est pas moi qui m'en occupais, c'est mon pauvre père. Il s'en occupait si bien que le jour même de sa mort, il fit venir son notaire, l'honnête monsieur Barateau.
Oui, et l'on n'a jamais bien su pourquoi il l'avait fait venir. Vous présumez, vous, que c'était pour lui remettre un testament à votre faveur?
Je ne le présume pas, j'en suis sûr.
Vous en êtes sûr?
Oui.
Et comment cela?
La veille, comme s'il se fût douté du malheur qui le menaçait, mon père, quoique je me défendisse de l'entendre, m'avait annoncé ce qu'il voulait faire, ou plutôt ce qu'il avait fait.
Je connais cette histoire de testament.
Vous la connaissez?
Oui, telle que vous l'avez racontée, du moins. Le marquis avait fait un testament holographe qu'il devait remettre à monsieur Barateau, mais avant de le lui remettre ou après le lui avoir remis, ce point, si important qu'il soit, n'a jamais été éclairci, le marquis tomba, frappé d'une attaque d'apoplexie.
Est-ce cela?
Oui, mon cousin, sauf un détail cependant.
Un détail? Lequel?
C'est que, pour une plus grande précaution, le marquis avait fait non pas un testament, mais deux testaments.
Ah, deux testaments?
Par duplicata, oui, mon cousin, exactement pareil tous les deux.
Dans lesquels il vous léguait son nom et sa fortune?
Justement.
Quel malheur que, de ces deux testaments, pas un ne se soit retrouvé.
Oui, c'est une fatalité.
Le marquis avait donc oublié de vous dire où ils étaient?
L'un était destiné à être remis au notaire, l'autre devait m'être remis à moi-même.
Et en attendant?
En attendant, le marquis l'avait enfermé dans le tiroir à secret d'un petit meuble de sa chambre à coucher.
Mais, dit Loredan en regardant fixement Salvator, je croyais que vous ignoriez où il était, ce précieux testament.
Je l'ignorais alors.
Et aujourd'hui?
« Aujourd'hui, répondit Salvator, je le sais. »«
Ah, fit Loredan, comptez-moi donc cela, la chose devient curieuse. »«
Pardon, mais vous ne voulez pas que je vous conte d'abord comment je suis vivant, quoique chacun me croie un peu plus ou un peu moins trépassé. Mettons de l'ordre dans le récit, il n'en sera que plus clair et plus intéressant. »«
Mettez de l'ordre, mon cher cousin, beaucoup d'ordre, je vous écoute. »
Et pour écouter le récit de Salvator, le comte de Valgeneuse se plaça de la façon la plus élégamment insouciante qui lui fut possible. Salvator commença.
« Nous vous passerons donc, mon cher cousin, dit-il, par-dessus l'histoire des testaments, qui ne vous paraît pas claire, quitte à y revenir plus tard, et à jeter sur elle le jour dont elle manque momentanément. Et nous reprendrons, si vous le voulez bien, mon histoire, au moment où votre honorable famille, qui jusque-là avait eu la bonté de me regarder comme un parent, qui avait même un instant rêvé un mariage entre moi et mademoiselle Suzanne, ne me regardant plus que comme un étranger, me fit signifier de quitter l'hôtel de la rue du Bac. »
Loredan inclina la tête en signe qu'il admettait que le récit dut partir de là.
« Vous me rendrez la justice de dire, mon cher cousin, continua Salvator, que je ne fis aucune difficulté d'obéir à la sommation. »
« C'est vrai, répondit Loredan, mais eussiez-vous agi de la sorte si le fameux testament se fût retrouvé ?»«
Peut-être que non, je l'avoue, dit Salvator, l'homme est faible, et quand il lui faut passer de la grande fortune à la misère, il hésite, comme ces mineurs qui, pour la première fois, descendent au gouffre. » Et cependant, au fond du gouffre, est parfois le minerai vierge, l'or pur.
Mon cher cousin, avec ces principes-là, on n'est jamais pauvre.
Et par malheur, je ne les avais point, alors, je n'avais que l'orgueil. Il est vrai que l'orgueil produisit chez moi l'effet qu'eût produit la résignation chez un autre. Je laissai mes chevaux dans leur écurie, mes voitures sous la remise, mes habits dans la garde-robe, mon argent dans le secrétaire, et je sortis avec les vêtements que j'avais sur moi et 100 louis gagnés la veille à l'écarté. C'était dans mes prévisions juste de quoi vivre un an de la vie d'un employé subalterne. J'avais des talents d'agrément, je croyais en avoir du moins. Je croquais le paysage, je faisais le portrait, je parlais 3 langues. Je donnerais des leçons de dessin, d'allemand, d'anglais et d'italien. Je pris un cabinet meublé à 1/5 étage au fond du faubourg Poissonnière, c'est-à-dire dans un quartier où je n'avais jamais mis le pied et où par conséquent j'étais tout à fait inconnu. Je rompis avec mes anciennes connaissances et j'essayais de vivre ma nouvelle vie, ne regrettant qu'une chose dans ce riche hôtel que j'abandonnais. Qu'une chose? Oui, devinez laquelle? Dites. Eh bien, ce pauvre petit secrétaire en bois de rose, ce bric-à-brac de famille que le marquis tenait de sa mère et que sa mère tenait peut-être de son aïeul. Ah, mon Dieu, dit Loredan, vous n'aviez qu'à le demander, on vous en eût fait cadeau avec bien du plaisir. Je le crois, d'abord parce que vous me le dites, mon cher cousin, ensuite parce que j'ai appris que vous l'aviez fait vendre avec le reste du mobilier. Vouliez-vous que l'on gardât toutes ces vieilleries? Comment donc? Vous avez bien fait, et tout à l'heure je vous en donnerai la preuve. Je m'en allais donc, n'ayant que ce regret, et commençais la vie nouvelle, comme dit Dante. Ah, mon cher cousin, ne soyez jamais ruiné, la vilaine chose que d'être pauvre et de s'entêter à rester honnête homme. Monsieur de Valgeneuse sourit dédaigneusement. Vous voyez d'ici, avec votre habitude du monde, comment les choses se sont passées, n'est-ce pas, mon cher cousin, dit Salvator. Mon talent de peintre, charmant pour un amateur, était médiocre pour un artiste. Ma science des langues, suffisante pour un riche touriste qui voyage, manquant de la profondeur nécessaire à un professeur qui veut démontrer. Au bout de 9 mois, mes 100 louis étaient mangés, je n'avais plus un seul écolier, les marchands refusaient mes tableaux. Bref, comme je ne voulais me faire ni escroc ni homme entretenu, il ne me restait que le choix entre la rivière, la corde et le pistolet. Vous choisîtes résolument le pistolet. Oh, de pareilles résolutions ne se prennent pas ainsi, cher cousin, et quand vous en serez là, vous verrez que le morceau est difficile à avaler. J'ai hésité longtemps, au contraire. Il ne fallait pas penser à la rivière, je savais nager, et une pierre au cou me donnait, avec les malheureux chiens que l'on noie, une ressemblance qui me répugnait. La corde défigure, puis on n'est pas encore bien fixé sur les sensations qui accompagnent ce genre de mort. J'eus peur qu'on ne dît que je m'étais tué par curiosité. Restait le pistolet. Le pistolet défigure aussi, mais d'une manière sinistre et non ridicule. Je savais assez la médecine, ou plutôt la chirurgie, pour placer juste le canon au bon endroit. J'étais sûr de ne pas me manquer. Je me donnais 8 jours pour faire de nouvelles tentatives, me promettant à moi-même que si elles échouaient, ces 8 jours écoulés, j'en finirais avec la vie. Elles échouèrent. Le 8e jour se leva. J'avais fait les choses en conscience. J'avais usé jusqu'à ma dernière ressource. Il me restait 1 double louis. Ce n'était même pas assez pour acheter un pistolet qui ne me creva pas entre les mains. Et puis j'avais une répugnance à me brûler la cervelle avec une arme de pacotille. Par bonheur, j'avais du crédit. J'allais chez Lepage. C'était mon fournisseur. Il ne m'avait pas vu depuis près d'un an et me croyait toujours 200 000 livres de rente. Il mit tout son magasin à ma disposition. Je choisis un excellent pistolet à 2 coups, un canon court, rayé et superposé. Je serai quitte pour mettre dans mon testament que le pistolet appartenait à Lepage et que je désirais qu'il lui fût rendu. Pendant que j'étais chez l'armurier, je chargeais mon pistolet. 2 balles dans chaque canon, c'était plus que suffisant. Au moment de cette opération, à laquelle j'apportais un soin minutieux, il me sembla qu'un doute passait sur le visage du maître ouvrier, mais j'étais, ou plutôt je paraissais si gai, que s'il eut un soupçon, ce soupçon s'évanouit à l'instant. Le pistolet chargé, je m'aperçus que j'avais faim. Je remontai la rue de Richelieu, j'atteignis le boulevard, j'entrai au café riche et je déjeunai. J'étais entré avec 40 francs, j'en sortis avec 30. Un déjeuner de 10 francs au café riche, C'est un luxe que peut bien se passer un homme qui a 200 000 livres de rente et qui va se brûler la cervelle parce qu'il n'a plus que 40 francs. Il était 2 heures quand je sortis du café. J'eus l'idée de dire un dernier adieu au Paris aristocratique. Je remontai le boulevard jusqu'à la Madeleine. Je pris la rue Royale. Je m'assis aux Champs-Élysées. Là, je vis repasser devant moi tout ce que j'avais connu de femmes à la mode, d'hommes élégants. Je vous vis, mon cher cousin, vous, vous montiez mon cheval arabe, Djerit. Personne ne me reconnut. J'étais absent depuis près d'un an. L'absence est une demi-mort, et quand la ruine se joint à l'absence, l'absence alors peut passer pour une mort entière. À 4 heures, je me levai, et machinalement, la main sur la crosse de mon pistolet, que je serrai comme on serre la main d'un dernier ami, je rentrai dans Paris. Le hasard, pardon mon Dieu de me servir de ce mot, la Providence, voulut que je rentrasse par la rue Saint-Honoré. Je dis la Providence, et je maintiens ce que j'ai dit, je rejoignais le faubourg Poissonnière. Je pouvais prendre la rue de Rivoli ou le boulevard, qui sont à peu près propres, au lieu de prendre la rue Saint-Honoré, qui est boueuse et sale. Je pris la rue Saint-Honoré. Où était mon esprit? Ce serait chose difficile à dire. Était-il dans les champs obscurs du passé, dans les plaines lumineuses de l'avenir? Planait-il déjà au-dessus de notre monde avec les ailes de l'âme? Était-il entraîné par le poids du corps dans les profondeurs du tombeau? Je l'ignore. Je rêvais. Je ne voyais rien. Je ne sentais rien que la crosse de ce pistolet que tantôt je caressais doucement et tantôt j'étreignais avec force. Tout à coup, je me heurtai contre un obstacle. La foule encombrait la rue Saint-Honoré. Un jeune prédicateur, protégé par l'abbé Olivier, faisait un sermon à Saint-Roch. Il me prit l'envie d'entrer dans cette église et, au moment où j'allais me trouver face à face avec Dieu, de recueillir comme une manne pour ce grand voyage la parole sainte. Je laissai tout le monde s'encombrer sur les marches du portail, j'entrai par la rue Saint-Roch et j'arrivai facilement jusqu'au pied de la chaire. Là seulement, ma main se détacha de la crosse de l'arme mortelle, ce fut pour prendre de l'eau bénite et faire le signe de la croix.